Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Le thème que nous allons voir ce matin s'intitule « Ne crains pas Dieu, seulement aime-le surtout ». Ne crains pas Dieu seulement, aime-le surtout. Vous savez, en priant pour vous dans la semaine et vous partagez la parole de Dieu pour ce week-end, je me suis rendu compte que plusieurs parmi nous, nous n'arrivons pas vraiment à marcher dans la victoire que Jésus a pour nous, non pas parce que nous n'aimons pas Dieu, non pas parce que nous n'avons pas donné notre cœur à Dieu, mais parce que nous n'arrivons pas à penser comme Dieu pense. Et on aime Dieu, mais on vient à l'église et on le loue et on l'adore et on est fortifié dans sa présence. Et on a l'impression, dès qu'on ressort de l'église, un poids revient, on rentre à la maison, le lendemain on va au travail et les difficultés, l'adversité arrivent et il y a quelque chose de lourd qui est là. Et ça ne doit pas être comme ça. Parce que si vous allez voir, si on donne à Dieu notre cœur, on doit aussi donner à Dieu notre façon de penser. Ça, c'est très important. Dans Marc 6, verset 2, je vais vous lire un exemple où on voit le peuple ici que Jésus enseigne tomber dans une mauvaise façon de penser, ne pas bénéficier de la puissance et de la force que Dieu voulait leur donner. Il est écrit à partir du verset 2, « Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. » Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? » Et il était pour eux une occasion de chute. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ce passage est assez tragique en réalité. Jésus, le Christ, le Dieu de l'univers, qui est venu vivre dans un corps qui s'appelle Jésus et sur terre, il a commencé son ministère, le pays entier entend parler de lui, il ressuscite les morts, il guérit les malades, il manifeste une sagesse extraordinaire. Il manifeste une puissance extraordinaire. Il arrive ici dans la ville où il a grandi à Nazareth et il partage la parole de Dieu. Le peuple est étonné et dit « Mais waouh ! Mais quelle sagesse ! Waouh ! Comment se fait-il que lui peut faire autant de miracles ?» Et là, il se pose, oui, de bonnes questions, mais malheureusement, il croit en une mauvaise réponse. Quelqu'un a dû peut-être se lever dans le peuple et a commencé à dire, mais attends, c'est pas le jeune gars qui réparait les chaises là parmi nous? C'est pas lui qui venait réparer les tables? C'est le fils du charpentier, ce gars-là. Je le voyais jouer dans la cour. Et là, ils n'ont pas vu Christ comme il était vraiment. Ils n'ont pas vu Christ comme étant Jésus, comme étant le Christ, le Dieu, le Sauveur, comme l'amour qui vient libérer, l'amour qui vient sauver. Et ce peuple n'a pas pu recevoir la lumière qu'il était. Parce qu'ils ont été renouvelés dans leur pensée. Après s'être posé de bonnes questions, le renouvellement est venu d'une mauvaise façon parce qu'ils ont cru à un mensonge. Qu'il n'était que le fils du charpentier. Non, il n'était pas que le fils du charpentier. Il était le Christ. Et ici, on voit que le peuple s'est renouvelé dans sa pensée d'une mauvaise façon et n'a pas pu recevoir la délivrance que Jésus était venu les offrir. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a de la puissance dans ta façon de penser. Il y a de la puissance dans ton système de pensée. Il y a de la puissance dans tes convictions. Ce en quoi tu crois fait énormément la différence dans ta vie. C'est pour ça que beaucoup parmi nous, nous croyons en Dieu comme étant notre sauveur. Et nous croyons que nous allons aller au ciel. Mais nous avons du mal à croire que nous pouvons amener le ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, sur la terre dans ta vie. Et du coup, nous n'arrivons pas à manifester les percées que Dieu veut qu'on manifeste dans notre mariage, dans nos finances, dans notre santé, dans notre famille, parce qu'on pense d'une mauvaise façon. Et notre pensée a été façonnée par notre passé. Notre pensée a été façonnée par nos échecs, par nos expériences amères. Et on n'arrive pas à se renouveler. Et on reste scotché sur une façon de voir erronée. N'est-ce pas que le fils du charpentier ? Et on n'arrive pas à ce moment-là à recevoir ce que Dieu veut pour nous. Et pourtant Jésus est là. Et il frappe à la porte et il attend impatiemment de pouvoir faire irruption dans ta vie comme jamais auparavant pour te délivrer, pour que tu puisses goûter à sa bonté, pour que son amour te soit manifesté et que tu puisses être délivré de tes peurs, de tes craintes. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. » pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Laissez-vous transformer par votre pensée. Quand le Seigneur, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous donne un cœur nouveau, mais le problème, c'est que notre pensée n'est pas encore transformée, n'est pas encore renouvelée. La Bible dit aussi dans 2 Corinthiens 5 que nous devons grandir de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Mais cette transformation d'une gloire à une autre gloire se fait lorsque nous sommes renouvelés par la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et ici, malheureusement, le peuple dans Marc 6 a été renouvelé par un mensonge. Et lorsqu'on reste emprisonnier, captif, dans un système de pensée qui croit à un mensonge, alors on n'a pas la percée que Dieu veut qu'on puisse avoir. Et Dieu veut venir nous délivrer, mais notre façon de penser ne pense pas comme Dieu pense. Un peu comme Pierre, qui à un moment donné reçoit une révélation extraordinaire, et Jésus dit dans Matthieu 18, il dit, mais qui les gens disent, qui je suis pour les gens ? Et il dit, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cela. Et il dit, mais pour vous. Et Pierre dit, pour nous, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus, waouh ! Jésus dit, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et sur cette révélation de qui je suis, l'ennemi ne pourra pas venir faire face. Et là, Pierre est content, il se dit, ah, les gars, vous avez vu dans son cœur, de dire, les gars, c'est moi qui ai gagné cette révélation-là. Et un instant après, Jésus dit, je dois aller maintenant à la croix à mourir. Et là, Pierre dit, non, je te laisserai pas faire. Et Jésus regarde et dit, arrière de moi, Satan. Il a gagné. Et Jésus le regarde et dit, mais tes pensées, à Pierre. À Pierre, il dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Cela signifie lorsqu'on pense uniquement de manière humaine ou de manière juste charnelle, on ne peut pas avoir la percée que Dieu veut. Pour nous, ça paraissait bien ce qu'il disait. « Oh non, moi, le grand Pierre, je vais empêcher que le Dieu vivant se fasse crucifier parce que moi, je suis plus fort que Dieu. » Et le Seigneur le regarde et dit « Mais arrête un peu. Tes pensées ne sont pas mes pensées, mais celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et donc notre façon de penser peut empêcher l'intervention de Dieu dans notre vie. Dans Osée 4, 6, la parole de Dieu dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas « Mon peuple périt parce que Satan est trop fort. » Pas « Mon peuple périt parce que je n'ai pas assez de puissance. » Pas « Mon peuple périt parce que je ne peux pas le délivrer. » Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne connaît pas, il ne me connaît pas. Il ne sait pas penser comme moi. Il nous faut donc nous renouveler dans notre façon de penser. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Une précieuse personne un jour vient me voir, je disais hier, et dit, J'avais prié pour elle, elle a été guérie. Et quelques temps après, elle est venue me voir en me disant, mais la maladie est revenue. Je crois que c'est parce que j'ai péché que la maladie est revenue et donc je dois faire pénitence. Et je lui dis, tu ne dois pas faire pénitence, tu dois faire repentance. C'est pas pareil. On a remplacé la repentance par la pénitence. Jamais Jean-Baptiste a dit « Pénitencez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Jésus a continué en disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Pas « Pénitencez-vous », même ça ne se dit pas. C'est-à-dire la pénitence, c'est que je vais goûter parce que j'ai péché, donc je suis sous la condamnation et je mérite une punition. Et on ne comprend pas qu'il a été puni à notre place. Et du coup, on n'arrive pas à recevoir avec foi ce qu'il a fait pour nous, pour qu'on soit délivrés. Qu'il a été jugé pour que nous soyons justifiés. Se repentir, ça signifie change de façon de penser. Repentez-vous quand le royaume des cieux est proche, ça signifie pense autrement pour avoir accès au royaume de Dieu, qui est l'autorité, qui consiste en la puissance, qui consiste en la paix, en la justice. Pense différemment pour que tu puisses manifester l'autorité que Dieu veut te donner. Pas pénitence, repentance. La pénitence, c'est que je crois que lorsque je vais me faire souffrir, je vais plaire à Dieu. J'aimerais te dire ceci, ta souffrance ne va pas te racheter. Ta souffrance n'a aucune puissance pour te racheter. C'est ces souffrances qui a la puissance pour nous racheter. Je disais à cette précieuse personne, non, te fais pas souffrir. Parce que Jésus a souffert pour nous. Elle me disait, et là ça concerne certains parmi vous, elle me disait, mais quelqu'un dans ma famille est tombé, a été grandement attaqué. Et j'ai dit à Dieu, non, attaque-moi plutôt que cette personne dans ma famille. Et c'est ce qui s'est passé. Je dis, fais attention à ce que tu dis. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est pour ça que maintenant, l'ennemi t'a rattaqué. Parce que tu dis, oh non, pas ma famille, moi plutôt, Seigneur. Je dis, tu ne comprends pas que Jésus a payé le prix pour toi. Il a souffert, tu n'as pas besoin de dire moi. Lui, il a souffert et par sa puissance, tu peux même délivrer ta famille. La croix, ce n'est pas d'abord la souffrance. La croix représente d'abord l'obéissance. L'obéissance en sa parole. L'obéissance en sa vérité. L'obéissance à sa volonté. Et nous avons parfois une façon de penser tellement erronée qu'on ne marche pas dans la victoire. 2 Corinthiens 10:4 nous dit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous faisons toute pensée prisonnière à l'obéissance de la vérité, à l'obéissance de la foi. Si ma pensée était auparavant prisonnière du mensonge, un faux raisonnement, les forteresses dans ce passage, un système de pensée erroné qui croit en un mensonge, alors aujourd'hui, étant renouvelé par la vérité, j'amène ma pensée à être captif de la vérité. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Je ne laisse pas les faux raisonnements me faire croire à un mensonge. Je ne deviens plus captif d'un mensonge, mais je deviens captif de la vérité. La différence est énorme dans ma vie. Je vais vous prendre un exemple. Dans Romains 15, verset 13, nous dit ceci. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce verset est extraordinaire. notre Dieu, notre Père, est le Dieu qui est la source de l'espérance, qui vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite. C'est bon ça? Ça c'est une prière à faire ça. Comment il veut nous remplir d'une joie et d'une paix parfaite? Par votre foi. Ça signifie parce que les choses par lesquelles vous croyez, par votre conviction, par les choses dans lesquelles vous mettez votre confiance, ces choses-là produiront la paix et la joie parfaite. Si la foi est celle que Dieu veut qu'on ait, alors il va nous remplir d'une joie, d'une paix parfaite par notre foi. Et lorsque notre foi, c'est-à-dire un bon système de conviction, lorsqu'on croit exactement la vérité, qu'est-ce qui se produit? Afin que vous soyez riches d'espérance. Riche d'espérance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la chose suivante. Que la paix et la joie ne dépendent pas de tes émotions, mais dépendent de tes convictions. La paix et la joie ne dépendent pas de tes émotions, mais dépendent de tes convictions, ce en quoi tu crois, ce en quoi nous croyons. Et si nous croyons d'une manière juste et vraie, alors nous allons être riches en espérance. Qui se dit dans ce lieu, j'ai trop d'espérance et trop de paix? C'est bien. Personne ne peut dire, j'ai trop d'espérance, trop de paix, trop de joie. Nous sommes là parce qu'on dit, Seigneur, je veux plus d'espérance, plus de paix, plus de joie. Mais pour ça, nous devons comprendre que je sais que vous aimez Dieu, frères et sœurs. Je bénis Seigneur pour la soif de Dieu que vous avez. Mais notre façon de penser nous empêche et nous vole trop de victoires que Dieu a pour nous. C'est pour ça qu'il nous faut être renouvelés dans ce qui oriente notre pensée, afin d'arrêter de croire à des mensonges, mais de croire en la vérité. Parce que lorsque nous croyons à la vérité, lorsque notre système de croyance, notre système de façon de penser produisent des convictions saines et justes et vraies, alors nous abondons en paix, en joie et en espérance. Cela signifie aussi que s'il y a un domaine dans ta vie où il y a un manque d'espérance, cela est un indicateur que tu crois en un mensonge. Cela signifie que si dans ta vie, dans tes difficultés, il y a un moment donné, tu manques d'espérance, tu ne crois plus ou tu espères pas assez, cela signifie que dans ta façon de penser, tu as un faux raisonnement, tu es dans une forteresse. C'est-à-dire, tu crois en un mensonge. Parce que si l'on croit en la vérité de la parole, on abonde en espérance. On est riche en paix et en joie. C'est pour ça que nous devons être constamment renouvelés de notre façon de penser. Et dire, oh Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, mais je te donne aussi ma façon de penser. Renouvelle-moi par ton esprit. Parce que quand on croit d'une manière juste et vraie, lorsque notre système de conviction est juste, on a de l'espérance, toujours. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme, vous savez, imaginez un bateau dans la tempête. La parole de Dieu dit que l'espérance est comme une ancre solide. Quand tu vois la tempête extérieure, la mer agitée et un gros bateau qui en réalité est juste agité mais il ne dérive pas parce qu'il a lâché l'ancre et son ancre est attachée à un gros rocher à des dizaines de mètres sous l'eau. Mais les gars sur le bateau ne voient pas cela. L'ancre, on ne le voit pas, mais il est attaché à un rocher solide. Et le bateau, malgré la tempête, ne dérive pas. C'est ça l'image. Lorsque nos convictions sont justes, on abandonne en espérance parce que peut-être que la tempête fait rage dans ta vie, mais tu as une espérance qui est accrochée à un rocher au fond de l'eau. Cette espérance C'est la vérité qu'est Christ le roc. Et on ne le voit pas dans cette réalité, mais en toi, Jésus vit. Et ton système de façon de penser est enraciné comme une ancre, attaché au roc qu'est la vérité. Et même quand la tempête fait rage, tu es stable. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe autour de nous est moins important que ce qui se passe en nous. Ce que les gens nous font à l'extérieur est moins important que notre réponse à l'intérieur. Deux personnes ou une famille entière peuvent vivre les mêmes ou traverser les mêmes conséquences difficiles. Mais chaque individu ne fait pas la même expérience intérieure. La même adversité peut rendre quelqu'un plus fort et rendre l'autre terrifié. C'est pour ça que ce n'est pas ce qui se passe autour de nous le plus important, mais c'est ce qui se passe en nous le plus important. Et Christ est en nous. Il veut que nous puissions réaliser cela. Il veut réaliser que toi et moi, nous réalisons qu'il y a en nous l'espérance de la gloire, l'espérance de la victoire. Amen. C'est son cœur pour chacun d'entre nous. Et Dieu t'aime. Alors regarde ton voisin, dis-lui, ne crains pas, tu es aimé et accepté. Et j'aimerais prendre une autre image pour illustrer le thème de ce matin. Puissions comprendre l'importance d'être renouvelé dans notre façon de penser. Parfois, je vois les frères et sœurs qui n'arrivent pas à voir la victoire parce que leur façon de penser est erronée. Il n'y a pas d'encre. On devrait tous être assez humbles parce qu'on est tous en formation dans le processus pour ce que lorsque la tempête arrive et que la détresse extérieure amène une détresse intérieure, cela signifie qu'on devrait être assez humble pour dire « Oh, là, mon ancre n'est pas sur le rocher qu'est Christ. Je crois en un mensonge qui ne produit pas en moi l'espérance et la paix suffisantes pour me faire traverser la tempête. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que j'aille maintenant au ciel et que je suis délivré de l'enfer, mais pour que j'amène le ciel. Jésus n'a pas prêché sur l'enfer et sur le ciel uniquement, il a surtout prêché sur le royaume de Dieu. Pour que le royaume de Dieu vienne en nous, au milieu de nous. Et quelle que soit l'adversité à laquelle on fait face, qu'on puisse avec sa force la traverser, avec sa paix la traverser. Et un autre faux raisonnement, surtout à La Réunion, un peu moins ici, ça va vous rafraîchir pour la plupart d'entre vous, mais avec une approche un peu nouvelle, c'est de croire que la crainte de Dieu se résume uniquement à la punition de Dieu. Ou de croire que, oh, je crains Dieu parce qu'il va me punir. Et de résumer la crainte de Dieu à, oh là là, Dieu va me corriger. Si on croit, par exemple, que la crainte de Dieu, c'est la punition de Dieu uniquement, alors là aussi, il nous faut être renouvelés dans notre façon de penser. Parce que la crainte de Dieu ne se résume pas à la punition, à la correction. La crainte de Dieu, c'est bien plus que ça. Si on a tendance à croire que lorsque je fais une erreur, à chaque fois que je ne fais pas sa volonté, ou à chaque fois que je fais une erreur, ou à chaque fois que je pêche, Dieu va me corriger, alors je vais me sentir condamné et je ne vais pas être libre de la condamnation. Je vais être une victime de la condamnation, une proie de la culpabilité et je ne vais pas être assez libre pour le louer parce que je vais croire que je mérite la punition et je ne vais pas comprendre la puissance de la rédemption, c'est-à-dire le rachat qu'il a payé au prix de son sang pour que justement je ne sois plus condamné. Lorsqu'on croit qu'on fait une erreur et que Dieu va nous pourrir la vie, entre guillemets, il va « Oh, je récolte ce que j'ai semé, je vais goûter. » Alors on voit Dieu comme un papa fouettard. Et on vient à l'église, on dit « Seigneur, je t'aime, mais C'est pas, Dieu veut pas qu'on le voit comme ça. C'est pas son cœur. Et c'est ce qu'on va avoir un peu ce matin. C'est pas son cœur de dire, oh, je veux que tu goûtes et que tu subisses vraiment de grosses souffrances. Comme ça, là, tu vas paraître saint. Dieu ne pense pas du tout comme ça. Il t'aime. Et il veut pas que tu sois une victime de la condamnation. Imagine un mari ou une femme. Les deux, le mari dit à sa femme, écoute, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Et la femme ne fait pas. Elle ne fait pas donc la volonté du mari. Imaginez le mari qui dit, comme tu n'as pas fait ma volonté, maintenant je vais arrêter de t'aimer. Et je vais t'enlever de ma présence et te mettre dehors. Le mari serait fou. Mais nous, parfois, lorsque on ne fait pas ce que Dieu veut ou on pêche, on pense que Dieu va nous tellement nous tourner le dos qu'on se sent coupable. Et lorsqu'on vient dans sa présence, on se sent tellement nul qu'on pense que, oh là, pour gagner son amour, ça va être dur. Il faut que je prouve que je l'aime. Vous savez, oui, Dieu déteste le péché. C'est vrai, il hait le péché. Il déteste le péché. Mais il aime le pécheur. Il aime énormément le pécheur. Et son amour pour le pécheur est supérieur à sa haine pour le péché. Il aime tellement le pécheur qu'il a envoyé son Fils unique pour nous délivrer du péché qu'il déteste. Et il sait que le péché va tellement faire de dégâts dans nos vies qu'il est venu nous racheter par son sang pour qu'on soit plus coupé de sa présence. Parce que le désir de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons connectés à lui, que nous restons connectés à lui, que nous développons et que nous nous efforçons de réaliser ô combien il nous aime et que nous soyons conduits à lui dans ses bras d'amour parce qu'on découvre ô combien il nous aime et non pas parce qu'il nous fait peur. Le peuple d'Israël dans le désert n'a pas voulu une relation avec Dieu parce qu'ils ont eu peur. Et lorsque l'Église donne une image d'un Dieu qui juge, oh, il y a une catastrophe, c'est l'apocalypse, c'est parce que l'homme est méchant. Il a détruit, Dieu a détruit, a envoyé un raz-de-marée, un tremblement de terre, des millions de vies, parce que l'homme est pécheur. Oh, repentez-vous, parce que Dieu vous aime. Le gars vient de perdre une famille entière, peut-être dans le tremblement de terre. Tu mets la faute sur Dieu, tu dis donne ta vie à Jésus parce qu'il t'aime. Et là, on donne une image de Dieu comme un Dieu qui corrige. Même si Dieu corrige ses enfants par amour et ses corrections sont réellement pas de la punition. Ses corrections apportent de la délivrance, mais il ne veut pas qu'on le voit comme ça. La Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Sa colère juste un instant. Et nous on fait, sa colère durera toujours et sa miséricorde juste un instant. C'est pas bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa colère juste un instant. Quand tu pèches, confesse ta faute. Demande pardon, va voir quelqu'un de confiance. Et Dieu étendra sa main sur toi et il te délivrera. La crainte de l'Éternel ne se résume pas à la punition. Écoutez ce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 8, 13. La parole de Dieu dit « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. » Dans Proverbe 1, 7, « La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance, le commencement de la sagesse. » Ce n'est pas écrit « La crainte de l'Éternel, c'est la punition, c'est l'enfer, le jugement. » Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour Satan. Et on veut conduire les hommes à Dieu en parlant uniquement de l'enfer. Non, Dieu veut que l'homme découvre son amour qu'il a manifesté à la croix au travers de Jésus-Christ. Il n'a pas fait ça même pour les anges, il a fait ça pour les hommes, pour que les hommes, cette créature que Dieu aime tant, puissent être ébahis, bouche bée, sans voix, devant l'immensité de son amour et découvrir ô combien Dieu nous aime personnellement. Et son amour nous pousse à la repentance. Romains 2, 14, la parole de Dieu dit « Mais où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience ou de sa longanimité ? Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » C'est que tu découvres le cœur de Dieu pour toi, mon ami, c'est que tu découvres tellement que Dieu t'aime, tellement il t'aime et tellement il veut avoir une relation forte avec toi, tellement il veut que tu comprennes que ce qui s'est passé dans ton passé, c'est pas de sa faute. Les expériences que tu as vécues de dur, c'est pas de sa faute. Il veut tellement que tu découvres que pour te délivrer de tout ça, il est mort sur la croix et ressuscité, qu'il veut que sa bonté que tu découvres te pousse à changer, te pousse à le voir autrement, à découvrir qu'il est le Christ. Mais le Christ est venu nous montrer un Dieu qui aime et pas qui condamne, pas un Dieu qui fait peur lorsqu'on pêche et qui veut dire ben maintenant comme tu as péché je ne m'appelle plus l'Emmanuel et je suis plus maintenant fidèle et je t'enlève ma présence. Dieu Emmanuel signifie Dieu avec nous. Lorsque la femme adultère dans Jean 8 commet l'adultère et qu'elle est prise en flagrant délit, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de comprendre ceci. Est-ce que vous pensez que cette femme ne savait pas que le jugement pour l'adultère était la lapidation? Elle le savait. C'était la culture de l'époque. Tu pêches, tu goûtes. La crainte de Dieu va t'empêcher de pécher. Mais la crainte de Dieu, c'était la crainte de la punition. Il pensait juste, le fait que je vais être puni va m'empêcher de faire le mal. Cette femme-là savait que si elle commettait l'adultère, elle allait être punie, mais elle l'a fait quand même. La peur de la punition ne l'a pas empêchée de mal faire. Et voilà que les religieux l'ont attrapée. On ne sait pas où est le gars. Elle a commis l'adultère tout seul, c'est marrant. Mais les religieux l'ont attrapée, en flagrant délit soi-disant, donc il y a bien un gars quelque part, mais la parole de Dieu n'en parle pas. Et tout le monde la condamne et dit, les religieux disent « Jésus ». La loi de Moïse dit qu'on prend une telle femme en flagrant délit d'adultère, il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Et vous savez l'histoire, Jésus dessine par terre, écrit par terre, et il dit, celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et un à un, ils s'en vont tous. Et ensuite, Jésus se lève et dit, mais où sont tes accusateurs? Et elle dit, ils sont tous partis. Et Jésus la regarde et lui dit, et moi aussi, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Waouh! Cette femme-là a dû être fracassée par l'amour de Jésus. Elle a dû se dire, mais aucun homme m'a manifesté autant d'amour, autant de bonté envers moi. Waouh! Vous savez, dans Isaïe 11, la Bible dit que Jésus, celui en prophétisant la venue de Jésus, va respirer la crainte de l'Éternel. Mais vous allez voir dans Hébreux 5, verset 7, la crainte de l'Éternel est ici définie par l'attachement à Dieu, la piété. Hébreux 5, verset 7 nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, dans notre version c'est traduit à cause de sa crainte, à cause de la crainte qu'il avait du Père. Mais le mot crainte ici, c'est le mot piété, attaché à Dieu. Comprends bien qu'on ne doit pas résumer la crainte de l'Éternel à la punition de l'Éternel. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Traduis maintenant la crainte de Dieu par l'attachement à Dieu, comme Hébreux 5. L'attachement à Dieu, c'est la haine du mal. L'attachement à Dieu, c'est le commencement de la sagesse. L'attachement à Dieu, c'est le commencement de la connaissance. C'est je m'attache à lui parce que je l'aime, mais j'ai une crainte sainte que je ne veux pas le déplaire ou la déplaire. Comme des enfants qui veulent plaire à leurs parents, non pas parce que le papa et la maman les a fait grandir sous un régime de terreur, mais parce que choqués par l'amour des parents, ils veulent servir en retour et aimer en retour. Et ils s'attachent pour leur être agréable. Et du coup, c'est un plaisir et un désir de faire la volonté du Père. Parce que son amour nous pousse à changer et son amour nous renouvelle sur qui il est. Et lorsqu'on se rend compte combien il nous aime et combien il t'aime et combien Dieu est amour, alors on ne peut que lui donner la gloire et dire « je veux vivre pour lui ». Parce que Dieu n'est pas un père qui veut te fouetter lorsque tu fais une erreur. vais vous poser quelques questions qui va, j'espère, vous faire réfléchir. Pas pour que vous puissiez répondre, mais réfléchir sur le fait que Dieu veut vraiment nous gagner à lui, qu'on reste attaché à lui, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel. Parce qu'on l'aime. Est-ce que l'on a besoin de la présence de quelqu'un qui nous punit pour que l'on marche toujours droit? C'est une question. Est-ce qu'on a besoin donc de dire « Je vais faire ça, sinon je gagne une correction. » Ou « Je ne vais pas faire ça, sinon je gagne une correction. » Pour faire. Je viens à l'église parce que j'ai peur de que Dieu ne réponde pas à mes besoins. Et si je ne viens pas à l'église, j'ai peur qu'il ne réponde pas à mes besoins. Donc je viens parce que j'ai peur. Est-ce qu'il y a... Et s'il n'y a pas de punition, qu'est-ce qui va m'éloigner de faire le mal ? Est-ce qu'il faut un climat de peur pour que je puisse devenir mature ? Est-ce que les promesses que Dieu nous a faites nous font peur ou nous révèlent son amour ? La peur de Dieu conduira-t-elle plus de gens à la repentance que l'amour de Dieu ? Je suis là devant vous ce matin. C'est parce que je l'aime. Et qu'il est bon. Mon épouse était malade tout le week-end. Mais Dieu est bon. Je ne dis pas, oh Seigneur, je te sers. Et regarde ce qui se passe à la maison. Des fois, tu guéris les gens et là, je prie, tu es malade. Et je laisse pas ce que je ne comprends pas me faire douter du Dieu qui m'aime. Et je ne laisse pas la peur qui ne pourvoit pas à mes besoins me conduire à l'adorer. La vraie crainte de Dieu nous conduit à découvrir l'amour de Dieu. Un homme de Dieu a dit, dans les Proverbes, il est écrit, « La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais l'amour de Dieu est la fin de la sagesse. » 1 Jean 4, 18 nous dit ceci. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En effet, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. J'ai peur que si je prie pas assez, oh, Dieu va cesser de m'aimer. Non, je veux prier plus parce que je l'aime plus. Parce qu'il m'aime, parce que je m'attache à lui. Et je n'ai pas peur qu'il s'éloigne de moi, il s'éloignera pas de moi. C'est moi qui risque de m'éloigner de lui. Donc mon amour pour lui, c'est que je renouvelle ma pensée pour rester attaché à lui, afin d'être enraciné dans la vérité. Et d'amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ, afin d'être riche en paix et riche en espérance. Et que son royaume en moi se manifeste au travers de moi. Et que sa paix est là. Et que sa joie est là. Et que j'abonde en espérance. Même s'il y a de l'adversité dans mes circonstances. Mais je choisis de réaliser que Dieu est un Père qui aime et qu'il m'aime. Et je ne laisserai pas la voix des circonstances me faire croire aux circonstances. Je ne laisserai pas la voix de mon passé me faire croire à mon passé. Je ne laisserai pas la voix de mes expériences erronées me faire croire à mes expériences erronées. Je vais laisser la voix de la vérité me faire croire et me révéler qui il est. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais laisser ce qu'il dit de moi. C'est ça que je vais croire. Je vais laisser ce qu'il dit de moi se manifester au travers de moi. Laisse ce que Dieu dit de toi se manifester au travers de toi. Ne crains pas. Ne sois pas une proie de la condamnation. Ne sois pas une proie de la culpabilité. Ne sois pas une proie de tes expériences erronées. Ne sois pas une proie de ton passé. Sois un roi. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce qu'il dit de toi. Un peuple de prêtres rois. Ne laisse pas ton passé te dominer. Sois un roi, règne sur ton passé. Si ton expérience dit « Oh, j'ai toujours eu un couple qui n'a jamais marché » et que Dieu te dit « Mais hé, hey, je veux que ton couple soit un couple, waouh !» Qui tu vas croire ? Ton expérience ? Ou ce que Dieu dit ? Si tu n'as jamais eu de percée dans tes finances, où le climat dans ton voisinage, dans ton travail a toujours été pourri. Et Dieu dit, hey, je veux que tu brilles. Réveille-moi en toi. Je vais te bénir. Qui tu vas croire ? Dieu veut que nous puissions tellement découvrir son amour que nous reflétons et nous démontrons son amour afin que les gens qui nous entourent envient ce qu'on a. Quoi ? Son amour. Pas sa peur. Dieu dit, hey, les gens te font du mal, tu es capable de les aimer. Qui tu vas croire ? Tu as l'impression peut-être que, oh, tu ne vas pas être guéri. Mais il est celui qui guérit. Peut-être que les médecins ont dressé un diagnostic terrible. Qui tu vas croire ? Si il y a un domaine dans notre vie qui manque d'espérance, qui n'est pas riche en espérance, cela est un indicateur que nous avons un faux raisonnement et que nous croyons à un mensonge. Jésus avait le choix lorsqu'il a été envoyé pour mourir et ressuscité pour nous. La Bible dit, Jésus dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Fais ce que je veux. Mon Père a dit, fais ce que tu veux. Si Jésus ne mourait pas pour nous, il serait remonté au ciel. Nous, non. Mais Jésus est parti sur la croix, hein. Non pas parce qu'il avait peur que le Père le corrige, mais par amour pour le Père. Par amour pour toi et moi, par amour pour nous, il est parti. Il était libre. Il nous a tellement aimés, il t'a tellement aimé. On a un merveilleux sauveur. Ce n'est pas possible de trop galérer. Ce n'est pas bon de trop galérer dans l'adversité. Même si les circonstances n'ont pas encore changé, mais Dieu veut que ça change en toi. Il veut emmener sa lumière en toi pour chasser les ténèbres en toi et briller au travers de toi. Ça, c'est possible. Pour que ceux qui t'entourent te disent « Waouh !» Même dans la difficulté, tu brilles, tu ne réagis pas comme les gens réagissent. Quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit dans Jean 16, 13, il a dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jésus appelait le Saint-Esprit le Consolateur, pas le punisseur. Il savait qu'on allait avoir à faire face à l'adversité. Il savait qu'à cause du péché et de ce monde difficile, on allait être souvent dans l'inconfort, dans l'incompréhension. Et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous envoie l'Esprit de vérité, le Consolateur. Il va vous conduire dans toute la vérité. Comment il nous conduit dans la vérité? Par la consolation, pas par la punition. Par la consolation, qui est une manifestation de son amour. Pour que nous puissions voir combien il est bon. et être fortifiés dans notre être intérieur et ne plus devenir des victimes de notre passé, de nos expériences mauvaises, mais de réaliser qu'il est venu nous délivrer de toute œuvre de l'ennemi. Et que toi et moi, en Jésus-Christ, nous avons la puissance de détruire les œuvres du diable. Je terminerai sur cet exemple. Qui ici est né de nouveau? Qui peut dire « ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Jésus » Amen. Vous savez, une nouvelle naissance, la parole de Dieu parle dans Jean 3. Ah, j'aimerais juste vous dire ceci. Un enfant, lorsqu'il naît dans le monde naturel, il n'a pas de passé. Et lorsque tu nais de manière spirituelle, tu n'as pas de passé non plus. Alors ne laisse pas le passé que tu as expérimenté te faire croire que tu as un raté, te faire croire que tu es rejeté, te faire croire que tu es mal aimé. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Et comme un enfant qui essaie de marcher, qui tombe, alors nous essayons tous de bien faire et nous tombons parfois. Mais ça ne fait pas de toi une mauvaise personne. Attache-toi à Dieu, le Père, et découvre la grandeur de son amour comme jamais auparavant. Et tu verras que tu arriveras pas uniquement à marcher à quatre pattes, mais à bien marcher et à courir bientôt. S'inquiéter, c'est voir son futur sans Dieu. Arrête de t'inquiéter du lendemain. Notre imagination nous a été donnée, pas pour que nous puissions nous inquiéter. Notre imagination nous a été donnée pour que nous puissions voir avec les yeux de la foi et amener à l'existence ce qui n'existe pas. Voir ce que Dieu voit. Mais que vois-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Que vois-tu de ton épouse? De tes enfants? Est-ce que tu laisses les circonstances ou le passé définir ce qui t'entoure et toi-même? Ou laisses-tu la vérité te définir? Qui est-ce qui compose ton identité? La vérité ou ton passé? Le choix nous appartient. Lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit au prophète Jérémie dans 1 Jean 4, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, « Ah Seigneur l'Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas, je suis un enfant. Et le Seigneur te dit ce matin, ne dis pas que tu as moins que rien. Ne dis pas que tu es un raté. Ne dis pas que tu es rejeté. Ne dis pas qu'on ne t'aime pas. Arrête de laisser les autres et ton passé ou ton expérience te définir. Mais laisse ce que Dieu dit te définir. Afin que tu puisses expérimenter son amour en toi. Lorsque tu crois en ce qu'il dit et tu marches par la foi et non par la vue. La Bible dit le juste marche par la foi. La Bible ne dit pas le juste marche par son expérience. La Bible ne dit pas que le juste marche par son passé. Le juste marche par la foi, par un système de conviction qui croit en la vérité de la parole de Dieu. À ton sujet, à mon sujet. Afin que nous puissions abonder en joie, en paix et en espérance. Amen. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît ?